Donc on va poursuivre par la seconde table ronde en abordant différents aspects de ce point de vue de la formation, de la reformation. On va commencer par Antonella, des chercheurs au Paris Cité, qui est aussi mixte dans sa carrière, philosophie, danse, art. Je te laissais la parole, mais je ne sais pas si ce micro marchait. Le mien marche, mais c'est sous la pluie.
Vous m'entendez? Non.
Vas-y.
Bah, je fasse. Ah oui.
Allez.
Bah, je pense. Oui.
Deux micros stéréo, c'est
bien. Bonjour à toutes et à tous. Et merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie avec mon ACLI. Je remercie Bernard Andrieux, qui était mon directeur de thèse. Et en fait, mon exposé d'aujourd'hui est basé sur les résultats de ma recherche de ma thèse, qui portait sur l'intentionnalité dans l'acte chorégraphique. Et dans mon travail de recherche, justement, j'ai abordé aussi les types d'interactions existant entre les chorégraphes et les danseurs tout au long de leur travail de collaboration, et aussi me référant au processus de formation ou par formation, je faisais référence non seulement au parcours de formation au sens propre du terme, mais aussi en faisant référence à l'activité d'un danseur qui est soumise à des processus d'évolution, de transformation tout au long de sa carrière. Les corps du danseur, matière sensible, se façonnent et rencontrent la sensibilité du professeur ou du chorégraphe à chaque moment. Certainement, il y a l'aspect lié à l'incorporation des techniques. Chaque chorégraphe a son propre style et chaque danseur a son propre bagage de formation. Ceci est à la base de la rencontre entre ces deux acteurs. L'incorporation des techniques comporte pour les danseurs ce que Merleau-Ponty appelait dans la phénoménologie de la perception consécration motrice. Ce travail est basé sur la répétition de l'exercice qui devient habitude, mais qui peut déclencher en contrepartie l'aliénation car l'habitude devient mécanique. Et une autre conséquence est que les changements d'habitude se révèlent extrêmement douloureux parce qu'il faut à chaque fois renouveler l'expérience. Certainement, la notion d'habitus prend dans ces cas une connotation particulière en se référant au résultat des efforts accomplis pendant les répétitions. Mais prendre en compte seulement ces éléments serait, à mon avis, extrêmement réducteur. Il nous est difficile de partager l'idée d'Alain Berthoz quand il écrit à propos de la danseuse. Il suffit de contempler une danseuse pour constater l'extraordinaire pauvreté, pardon, du répertoire moteur dont elle dispose, attribuant ainsi au seul génie du chorégraphe la richesse expressive de la danse. À travers les récits des danseurs interviewés pendant ma recherche, notamment les danseurs du Malandin Ballet Biarritz ou du Ballet Préjocage, il est ressorti que l'activité dansée fait émerger tout au long du travail aussi des sensations internes qui témoignent de la capacité du corps vivant à être affecté. L'entraînement régulier du corps par l'activité dansée est nécessaire à l'incorporation de l'expérience corporelle qui se configure ainsi comme forme de vécu. Dans le cadre d'une compagnie, notamment néoclassique où la maîtrise de la technique joue un rôle important, une fois incorporée, elle devient d'une part le cadre nécessaire pour exécuter la chorégraphie correctement et d'autre part le point de départ du développement de l'expérience corporelle du danseur et une forme d'expérience intime propre à lui-même. On peut constater la même expérience dans les cas des compagnies contemporaines, des danses contemporaines, la présence d'un autre cerveau qui s'active à côté du cerveau analytique et une constante indépendamment du style de danse. la rigueur et la précision dans l'exécution des gestes dansés, la structuration et le développement proprioceptif du corps pour incarner le style du chorégraphe n'empêchent pas l'activité vivante du danseur de se révéler. On se trouve donc en apparence face à une double constitution du mouvement basée sur sa reprise, sa répétition, laquelle entraîne des gestes automatiques susceptibles de se formater dans la zone de non-conscience-inconscience qui permet de faire confiance à son corps. En faisant référence à l'immersiologie, et je précise que l'immersiologie est une science réflexive née de l'immersion des sensibles et des sensations internes provenant de notre corps vivant qui émerge justement dans les corps vécus, on peut parler de danse immersive qui est sous-jacente et intègre l'expérience vécue par les danseurs. Elle propose une vision du corps comme seuil qui devient une interface qui laisse émerger toute une activité vivante dans la vivacité des gestes. Ou pour vivacité des gestes, nous entendons la recherche d'une nouvelle découverte de son corps. Cela implique l'abandon ou une écoute en sourdine des gestes volontaires. Grâce à la vivacité de son vivant, la danse immersive laisse passer à travers la scène les contenus performatifs de la spontanéité involontaire. Ainsi, l'essence de la danse immersive émerge en laissant faire le corps vivant, ou mieux, en faisant confiance à une forme de lâcher prise où l'activité corporelle du danseur peut déployer toute sa vivacité. On pourrait comparer ces idées à la position de Merleau-Ponty quand il rapproche la notion des schémas corporels du concept de gestalt psychologie. En fait, pour les philosophes français, le schéma corporel devient une prise de conscience globale de ma posture dans le monde intersensoriel, capable d'ouverture et de production de mouvements proprioceptifs à nouveau qui vont intégrer les schémas corporels et qui sont capables de les transformer et de l'enrichir. Les danseurs accueillent les intentions du chorégraphe et les forgent grâce à son expérience corporelle. Cela peut se baser sur des processus d'empathie, surtout quand les chorégraphes et les danseurs travaillent depuis longtemps ensemble. Cela peut aussi activer l'imaginaire du danseur, déclenché par les sensations internes de son corps. Enfin, cela peut exprimer un degré plus ou moins élevé de densité du mouvement qui fait du danseur un bon interprète. Les qualités réceptives du danseur, avec ses capacités motrices, créent des synergies avec les intentions motrices du chorégraphe qui permettent à l'œuvre dansée d'exister et se transmettre dans le temps. En faisant appel à l'immersiologie, nous pouvons conclure que si la conscience corporelle privilégie les informations qu'elle reconnaît, l'inconscient cérébral a déjà produit une recalibration des zones motrices en les activant. Le geste est déjà incorporé avant que la conscience ne les reconnaisse pas comme le sien. Le corps est donc doué d'essence grâce à des mouvements de feedback entre les différentes parties sensitives, sensorielles et motrices, sans avoir à recourir à aucune structure linguistique ou autre moyen intermédiaire. Merci.
Moi, je mets juste le temps que je passe le micro. Une petite question. Vous parlez de temps, mais je sais que le travail qu'on m'a fait n'est pas simple. C'est-à-dire que le temps de l'artiste, le temps du chercheur, enfin, le temps est toute une complexité.
C'est la question fondamentale.
Si tu pouvais. Le temps que je passe, pour approcher, pour l'accrocher.
Sinon, aborder. Les temps
de création, le temps de recherche,
l'assimilation.
Ben, ça dépend. Ça dépend. c'est pas une donnée fixe, c'est plutôt variable. Ça dépend justement de la création qu'on veut faire. Ça dépend du chorégraphe, c'est, c'est pas quelque chose qu'on peut définir vraiment en amont. C'est vrai que de plus en plus, il y a des temps très courts de création, parce qu'il y a des contraintes très fortes, mais ça peut être même un mois, deux mois, une création d'une heure et quart, mais ça peut varier. Il n'y a pas un temps fixé. Les temps sont surtout fixés par les calendriers des programmations artistiques imposés par les théâtres et par les productions. Oui, dans la plupart du temps, c'est comme ça.